Le tag de l'info.
Un tsunami d'émotions.
C'est ce qu'ont vécu les personnes qui ont perdu un proche pendant la crise. Des décès survenus au terme de quelques jours de maladie seulement. Et dans des conditions très particulières, des visites autorisées au compte-gouttes avec bien sûr port de masque et de tenue stérile. Marie-Roseline et Caroline témoignent. La première a perdu sa mère et la seconde ses deux parents, tous atteints par le Covid. Comment vit-on la maladie et la mort d'un parent dans un tel contexte? Comment entamer le processus de deuil alors que les adieux ont été si abrupts? C'est un sujet de Sarah Comporini.
Alors en fait, au préalable, je suis tombée moins malade. Mon mari aussi, c'était fin mars, juste après les fermetures un peu globales.
Début de l'histoire pour Caroline Quinca qui vit dans le canton de Fribourg. Les événements vont ensuite s'enchaîner. Son père, âgé de 85 ans et proche aidant de sa femme, développe en premier la maladie. Il est conduit aux urgences. Son épouse de 82 ans, diabétique, est alors placée dans un hôpital pour personnes âgées avant de présenter à son tour les symptômes du Covid. Et très rapidement, son état se dégrade.
J'ai été voir ma maman une première fois. Elle avait déjà de la peine à respirer. J'ai fait un monologue. Je ne savais pas si elle m'entendait ou pas, mais dans ses yeux, j'avais le sentiment que oui. Ça, c'était la première visite. Après, c'est mon frère qui allait. Et j'y suis retournée une deuxième fois. Et là, en fait, je lui tenais la main. J'ai peut-être resté 5 minutes. Je lui tenais la main et elle est décédée pendant que je lui tenais la main. I've come to talk with you again because a vision
softly creeping. De son côté, le père de Caroline semble aller dans un premier temps un peu mieux, avant que son état se détériore à nouveau. Caroline retourne le voir.
Là, j'ai annoncé à mon papa, j'ai dit « Écoute, maman est partie, donc maintenant c'est à toi de choisir si tu veux te battre ou... » Il ne me répondait pas, ses yeux étaient très expressifs, donc je pense qu'il était conscient. Par contre, il n'avait pas l'énergie et la capacité à parler.
Le père de Caroline décédera finalement 2 jours plus tard, début avril, tout comme la mère de Marie-Roseline, résidente dans un home de Bilance. Notre témoin est elle-même accompagnatrice de personnes en fin de vie et c'est en partie grâce à ce statut qu'elle a pu quand même voir sa mère à quelques reprises.
La raison aussi, c'est que j'ai insisté. J'ai dit, écoutez, je suis moi-même dans les soins, j'accompagne des gens, mais je vais m'habiller comme les personnels soignants. C'est pas le cas de tout le monde et c'est là que j'interviens. Il n'y a pas que les personnels qui travaillent dans les soins, qui ont la parenté, qui est malade, qui puissent le faire. Que ça peut être à tout le monde qui souhaite et qui veulent le faire.
Mais ces très rares visites engendrent un sentiment de frustration pour Marie-Roseline.
J'imaginais maman dans ce lit où je ne pouvais pas être à côté d'elle. Et là, j'ai crié dans ma voiture, j'ai pleuré. J'y m'imaginais elle dans son lit. Je me suis dit, on ne l'a pas abandonnée. Il y a tout une scénario qui venait dans ma tête. Et j'étais révoltée.
Cette souffrance des proches, c'est aussi ce qu'Yves Gremion, infirmier de l'équipe mobile de soins palliatifs Voltigo, a pu constater.
Toutes les personnes que j'ai rencontrées durant cette période, elles comprennent parfaitement les mesures mises en place par nos autorités. Par contre, beaucoup de souffrance, parce que durant toute cette période de fin de vie, les repères ont été modifiés, la relation à l'autre, aux autres, ont été modifiés. Le toucher, le contact direct n'était pas toujours possible. Je me souviens d'une situation où pour la fille, c'était très très important que sa maman rentre le plus rapidement possible à la maison. Elle était hospitalisée et pour elle, c'était une énorme souffrance, une énorme frustration de savoir sa maman hospitalisée, de ne pas pouvoir la voir. Elle avait la crainte que le décès survienne à l'hôpital. Alors fort heureusement, elle a pu rentrer à la maison et elle est décédée à la maison dans les 48 heures qui ont suivi son retour à la maison. Mais c'était une énorme souffrance. Donc la souffrance de ne pas pouvoir vivre ce moment difficile, ce moment qui est aussi une préparation au deuil qui va suivre dans des circonstances normales. C'est ça qui a été le plus difficile. Donc beaucoup de souffrance, compréhension, mais souffrance.
Le soignant, habitué à certains gestes envers ses patients mourants, doit lui aussi repenser la manière de faire son métier. Yves Gremion.
Être en relation avec une personne à travers un masque, à travers la distanciation sociale, ces gestes barrières, fait que ce rapport-là est complètement modifié. Hein. Parler à travers un masque nous empêche aussi de visualiser les émotions que la personne transmet. Elle-même, elle n'a pas le même regard vis-à-vis de nous. Nous, en tant que professionnels, on a perdu nos repères relationnels, et je pense que ça a quand même un impact sur les patients et les proches que nous accompagnons.
Et puis, c'est aussi l'entrave au simple contact physique qui a été difficile à gérer, pour les proches comme pour les soignants.
Ça aussi, c'est bizarre de devoir être avec ses parents, de tenir la main de son papa ou de sa maman avec des gants. Des fois, je me disais, mais comment eux, ils le ressentent ? C'est extrêmement impressionnant. On a le sentiment d'être dans une autre dimension.
Alors, le toucher, ben, il se réduit au strict nécessaire, c'est-à-dire aux gestes techniques. Mais le toucher pour ben, justement saluer, hein, les salutations, pour prendre congé d'une personne, pour consoler, n'est plus possible durant cette période de pandémie. Donc là aussi, c'est un rapport à notre travail qui a été fortement modifié. Hein. Dieu sait si c'est important de pouvoir consoler, et la consolation se passe essentiellement par le toucher, par la proximité. Et bien entendu qu'avec les gestes barrières, ben, tous nos repères sont tombés et nous avons dû réinventer une manière de soutenir, une manière différente de soutenir.
Impossible aussi pour l'infirmier de réconforter par les gestes les proches endeuillés.
Ben en général, il y a les émotions qui sont tellement fortes, hein, ce partage d'émotions. Ben en général, spontanément, on prend les personnes dans nos bras, etc. Ben là, avec les gestes barrières, on soutenait par les mots, on soutenait par le regard, mais plus par le toucher, plus par ce contact qui est si important.
Peu de réconfort pour les proches, très vite confrontés à une autre réalité douloureuse, comme en témoigne Caroline.
Par rapport aux cérémonies, on nous a dit on peut pas, vous ne pouvez pas faire de cérémonie. Maximum 5 personnes peuvent venir visiter le défunt ou la défunte. En l'occurrence, ben, dans les deux cas, mon père et ma mère étaient tous les deux dans des sacs, mais dans un cercueil. Et ils nous ont dit, si vous voulez, on peut ouvrir le cercueil, mais une seule fois. Maintenant, avec le recul, ils disent que je crois 5 jours après le décès, la personne est encore porteuse du virus. Au début avril, ils ne savaient pas trop. Donc, dans l'ignorance, ils voulaient éviter de trop manipuler les personnes décédées. Ce que je peux concevoir. Donc, pas de cérémonie sur le moment. On s'est dit, on attend quelques mois et on fera ça dans le jardin avec de la musique. Et puis, les proches, les amis et les proches. I turn inside out.
Marie-Roseline, elle, a tout de même pu organiser des funérailles à l'église de Mézières, un moment essentiel pour cette croyante.
On était une vingtaine de personnes, comme l'église était assez grande, on a bien eu la place. L'abbé, il a fait la cérémonie pour maman, magnifique. Après, on a dit au revoir à maman, et maintenant on attend de pouvoir partir à l'île Maurice aussi, pour faire la cérémonie à l'île Maurice comme elle souhaitait. Je trouve triste, il y a des gens qui n'ont même pas pu avoir ça, la cérémonie.
Corps invisible, absence de cérémonie, ces situations auront un impact sur le long terme pour les proches des défunts. Yves Gremion.
Après, ça dépend beaucoup de comment les proches se donnent le droit de réinventer des rituels, hein, mais le travail de deuil s'initie dans notre société par des rituels. Et ces rituels sont importants. Ils sont importants en termes individuels, mais aussi en termes de société, parce qu'ils permettent de rassembler, de se soutenir, de faire mémoire. Bien entendu que quand ces rituels-là de proximité disparaissent, il faut avoir la capacité d'en réinventer d'autres, de réinventer des rituels par substitution de la pensée, hein, par exemple avec une bougie allumée, des photos exposées, des mots écrits, etc. Donc oui, je pense que le travail de deuil, pour certains, va être plus compliqué, surtout pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette phase terminale de la vie, d'être en proximité. Ben, il y a tous les mots que l'on dit dans ces moments qui sont importants, hein, les mots d'amour, pourquoi pas les mots de pardon, hein, les mots de réconciliation qui n'ont pas pu se dire. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu assister à cette période de fin de vie, hein, de prendre connaissance comme ça du décès, c'est autre chose à métaboliser. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping
Voici maintenant 2 mois que Caroline et Marie-Roseline ont perdu leurs parents. Une épreuve soudaine, violente, mais avec aussi des points positifs à retenir.
Ça aurait été beaucoup plus difficile si on n'avait pas pu faire nos adieux avec mon frère. J'ai le sentiment d'avoir dit autant adieu à ma mère qu'à mon père. Du coup, le décès, on le vit beaucoup mieux. On a le sentiment que la boucle est bouclée en quelque sorte. Et je ne peux pas concevoir que des gens n'aient pas pu dire au revoir à leurs parents. Ça, je trouve dramatique parce que ça, émotionnellement, ça doit être vraiment très très dur. Donc à ce niveau-là, on est serein avec mon frère. À un moment donné, on sent que ses parents sont en train de partir. Mais en même temps, on a de la difficulté à l'admettre. Et puis après, on se dit, mais en même temps, ils ont une belle vie. Donc c'est peut-être le moment de les laisser partir.
À ce jour, le Covid a fait 1663 victimes en Suisse et près de 31 000 cas confirmés. D'après les statistiques de l'Office fédéral de la santé publique, la très grande majorité des personnes décédées souffraient déjà d'une maladie au moins, comme le diabète. Un sujet à réécouter sur notre site radiofr.ch, rubrique TAC de l'info.
Le TAC de l'info.